J'ai intitulé, moi, le thème du message, c'est quoi l'Église? Avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est l'Église selon la parole de Dieu? Aujourd'hui, on est dans un siècle où les gens sont capables de pleurer, de donner des millions pour un bâtiment et des pierres qui ont des siècles d'âge, qui se sont écroulées et qui ont brûlé. Et puis, en même temps, ils sont capables de passer à côté des gens qui ont les vies brisées, détruite et d'être totalement indifférent. Mais c'est quoi l'Église? L'Église, la Bible, partout dans la Bible, elle utilise le mot « Église » pour parler des personnes. Et quand on marche dans la rue, alors bien sûr que l'Église, ce sont les personnes qui croient, c'est pas tout le monde. Mais quand on marche dans la rue et quand on voit une vie qui est détruite, est-ce qu'on a le regard de Dieu qui est capable de voir la personne qui peut devenir une pierre vivante de l'Église? Ou est-ce qu'on est comme ces autres personnes? On va donner pour des bâtiments, mais on va rien faire pour les gens. Quelle est notre réponse devant Dieu? Alors, j'espère que vous êtes avec moi pour dire on veut être des pierres vivantes et on veut que toutes les pierres qui sont au dehors, qui sont dans les champs, puissent être saisies par le Seigneur pour être ramenées dans la maison de Dieu et construire un temple qui honore le Seigneur. Regardez ce texte dans Éphésiens. Éphésiens et chapitre 1er. J'étais bouleversé quand j'ai lu ce texte de voir en fait que Paul était en train de dire aux Éphésiens c'était quoi l'Église. Je l'ai lu des centaines de fois ce texte, je peux vous le dire. Des centaines peut-être, je dirais pas des milliers, mais peut-être on ne doit pas s'en éloigner. Et pourtant, quand je l'ai relu avec l'aide du Saint-Esprit dans cette semaine, Dieu m'a montré qu'il était en train de parler de l'Église, l'apôtre Paul. Aux Éphésiens. Alors, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour tous ceux qui sont là ce matin, pour ceux qui sont habituels ou ceux qui nous visitent, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. De la part de notre Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et à la louange de la gloire de sa grâce, celle qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Une belle description de l'Église. Et dans ce passage, combien de fois il y a le mot « Église » dans ces versets? Qui a compté? Vous n'avez pas compté. Combien? Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas le mot « Église » du tout qui apparaît. Et c'est un peu bizarre, justement, et c'est pour ça que c'est presque une révélation de comprendre que Paul est en train de parler de l'Église, alors que le mot « Église » n'est pas employé. Il est employé une seule fois dans le chapitre 1er, et on va le lire, c'est le dernier verset, le verset 23. On peut lire le verset 22 pour prendre la phrase du début. « Il a mis, Dieu a mis tout sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à... » L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors déjà, si on veut répondre à la question « c'est quoi l'Église ?», là c'est répondu très facilement. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ a fait l'ascension, il est monté dans le ciel, il s'est assis à la droite du Père, mais sur la terre, il est présent par son corps qui est l'Église. L'Église est le corps de Christ. Et vous avez vu que ce texte est fort parce qu'il dit non seulement que l'Église est le corps de Christ, mais l'Église est aussi la plénitude de Christ, c'est-à-dire ce que Christ va remplir de sa présence et de son esprit. Parfois, on veut la communion avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens sur moi, viens me bénir. Et puis, on oublie que c'est au travers de l'Église que le Seigneur va manifester sa grâce. Quand c'est que le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte? Est-ce que c'était sur Pierre qui était dans sa chambre tout seul, dans son coin, et puis sur Jean qui était à l'autre bout de Jérusalem, à la cave? C'était ça? Non. Ils étaient 120 tous ensemble réunis dans le même lieu. Et c'est là que le Saint-Esprit a été envoyé. On veut la visitation de Dieu, on veut la présence de Dieu, mais la présence de Dieu et la plénitude de Dieu est collée et attachée à l'Église. C'est dans l'Église que le Seigneur bénit. Bien sûr, il peut le faire en dehors, mais quand on a le lien de cœur par le Saint-Esprit avec l'Église, ben c'est là que le Seigneur envoie sa grâce. Alors, dans ce texte, ces premiers versets, je voudrais qu'on voit ensemble 5 aspects de ce qu'est l'Église. Premièrement, c'est un lieu de bénédiction. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Trois tournures du mot béni sont dans ce texte. Béni soit Dieu le Père. Il y a une bénédiction qu'on veut faire monter vers le Père. Est-ce que vous aimez bénir le nom du Seigneur? Est-ce que vous aimez bénir le nom du Seigneur de temps en temps? Ou tous les jours? David disait, mon âme, tu sais pas quoi faire, bénis l'Éternel. Ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Bon, c'est moi qui rajoute un petit peu. Mais vous comprenez, c'est dans cette pensée-là. Mon âme, bénis l'Éternel. Oui, c'est dur. Oui, il y a des embûches. Oui, il y a des gens qui veulent peut-être te tuer. Mais mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce qu'on veut attendre de dire du bien du Seigneur juste le jour où il reviendra? Vous savez, cette semaine, on a connu un homme politique qui est parti, qui a traversé la mort, tout simplement. Et vous avez remarqué à chaque fois que c'est le cas, on entend toutes sortes de personnes qui racontent ce qu'ils ont fait de bien, des reportages et tout ce que vous voulez. La télé était remplie pendant la semaine. Je pense que personne n'a loupé l'information, hein, que M. Chirac est décédé. Et toutes les honneurs qui lui ont été rendus. Alors c'est normal en tant que président, mais réfléchissez-y un instant. Est-ce qu'il faut attendre que la personne meure pour dire du bien de la personne? Est-ce que je vais attendre que Jésus revienne pour lui dire en face que je veux le bénir de tout mon cœur? Ou est-ce que je veux le faire tous les jours? Parce qu'il le mérite. Monsieur Chirac a fait certainement des bonnes choses. Il en a fait des moins bonnes aussi, comme tous les hommes politiques. Mais notre Dieu, lui, il est parfait. Et on peut passer sa vie. Et je crois que c'est pas perdre son temps que de décider dans toute sa vie de bénir le Seigneur. Et c'est comme ça que Paul commence en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et vous avez remarqué, pour nous, bénir Dieu, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, bénir Dieu? Ça veut dire simplement dire du bien. Mais quand Dieu nous bénit, est-ce qu'il se contente de dire du bien? Voilà, quand Dieu bénit, la bénédiction des hommes, c'est juste des paroles. La bénédiction de Dieu, c'est de l'action. Parce que quand il parle, il agit en conséquence. Et combien nous sommes moins engagés que Dieu à bénir. Mais Dieu bénit, Dieu veut nous bénir. Et Dieu désire que l'Église soit un lieu de bénédiction, où on apporte au Seigneur des paroles qui l'honorent, des paroles qui le glorifient. Et bien sûr, on agit aussi en conséquence de nos paroles. Et on sait que lui, dans ces endroits-là, il nous bénit. C'est dans le rassemblement des frères et sœurs que Dieu envoie sa bénédiction. Vous vous souvenez, je le relis pour vous peut-être, le psaume 133 le dit très clairement. Si vous avez un doute, vous lisez le psaume 133. « Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Je vous passe tous les détails, mais ça termine avec « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » L'Église est un lieu de bénédiction, là où des frères et des sœurs se réunissent ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Parfois, on cherche partout, dans toutes sortes de moyens, même des conférences, des séminaires, on est prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller à un endroit, pour être béni. Alors que la bénédiction, elle est à côté de nous, dans la communion des frères et sœurs, selon ce que dit la parole de Dieu. La vie pour l'éternité. Oh, parfois on a tendance à se dessécher quand on laisse les choses de la terre nous envahir. C'est exactement ce qui se passe. On en parlait encore vendredi. Les épines poussent et la semence a du mal à faire son chemin et elle se dessèche. Mais quand on est dans la communion fraternelle, c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est la bénédiction et le Seigneur manifeste sa grâce sur chacun de nous. On peut se laisser piéger. Je lisais un pasteur qui parlait de certaines choses qui se passent et il disait, il prenait cet exemple, aujourd'hui on a une église qui est comme un supermarché. On voit l'église comme une entreprise qui propose des services ou des produits. Certains sont chargés de mettre en rayon ce que les autres viennent consommer. Et quand on est dans cette mentalité-là, c'est le piège dans lequel on peut facilement tomber, hein, parce qu'on est dans une société de consommation, et on pourrait se laisser piéger à voir l'église comme ça. Alors, si on est dans cette mentalité-là, ben, on va être détaché de l'église. On va y aller seulement quand on a besoin, comme au supermarché. On y va quand le frigo est vide. On y va avec le caddie, on remplit, hop, et après on repart à la maison. Ou alors on y va quand on n'a rien de mieux à faire, on va se promener. Ça vous est déjà arrivé de vous promener dans les magasins sans avoir aucun objet à acheter, hein. Mais quand on habitait en Guinée, en Afrique, quand on allait au supermarché du coin, alors supermarché, ça équivaut à un petit Lidl. C'était ça le supermarché, à l'époque en tout cas. Et quand on regardait les rayons, il y avait trois produits qui se battaient en duel sur les rayons. Et en plus, ça valait super cher, les yaourts, le fromage, tout ce qui était produit français, c'était très cher. Donc, par exemple, pour Noël, on mangeait des yaourts et on était content. C'était le top, c'était un festin. Mais quand on rentrait en France l'été, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on allait se promener dans les grandes surfaces. Juste pour le plaisir de voir des rayons remplis, pour voir des trucs gigantesques partout. Et on était impressionnés. Mais est-ce que c'est ça l'église ? Est-ce que c'est, je vais me promener, tiens, j'ai rien de mieux à faire aujourd'hui, oh, il pleut, oh, tiens, il n'y a rien d'intéressant à la télé, je vais aller à l'église, je vais faire mon supermarché. Alors parfois même, on cherche des promos, et vous savez qu'il y a des gens qui sont forts pour donner du light, pour donner des doctrines discount. Alors, on vous donne la moitié de la vérité, mais on ne vous donne pas la vérité. On vous donne ce que vous avez envie d'entendre, mais qui n'est pas bon pour vous. Sur Internet, on le trouve facilement de tout, hein. Mais c'est ça l'église ? Non, l'église, c'est pas le supermarché de la bénédiction, c'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu où je viens m'assembler dans la communion fraternelle pour chercher la bénédiction que Dieu veut me donner, parce qu'il veut nous le donner. Il est dit, il nous a bénis. Moi j'aime bien rajouter, parce que c'est totalement dans l'esprit, il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Des fois, on doute, est-ce que Dieu veut me bénir ? Non, il nous a déjà bénis, c'est fait, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, il faut faire notre part pour accéder à la bénédiction, de la même manière qu'il a été donné l'ordre à Josué, quand il devait remporter conquérir le pays. Qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Est-ce que vous vous souvenez ? Alors, oui, ça, c'est pas ça. Il a dit ça, mais c'est pas celui que je voulais. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Ça veut dire qu'ils avaient le pays entier déjà conquis, d'un point de vue de Dieu. Mais il fallait qu'ils mettent le pied aux endroits où ils allaient être conquéris. D'accord ? Et des fois, on oublie qu'il y a une étape à nous d'avancer et d'aller dans les domaines. Dieu veut qu'on remporte des victoires dans notre couple, dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans notre voisinage, dans notre témoignage, dans tous les domaines que Dieu nous montre. Dieu veut qu'on remporte des victoires. La bénédiction, elle est déjà donnée, mais c'est à nous de la prendre maintenant. C'est à nous d'aller la chercher. Alors souvent, on entend l'ennemi qui dit un peu le contraire. Tout pied qui se plantera hors de ce lieu où tu es, je te le foulerai. C'est-à-dire, surtout, sors pas de toi, tu vas te faire mal. Surtout, va pas plus loin. Oh là là, tu risques d'être fatigué. Ça, c'est l'ennemi qui parle comme ça. Surtout, reste dans ton petit confort, chrétien. C'est très bien. Oh là là, le pasteur, il t'en demande beaucoup. Non, écoute pas. Ça, c'est l'ennemi qui parle. Dieu nous dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Sur quoi est-ce que je veux mettre mon pied ? Sur quoi est-ce que je veux que le Seigneur manifeste son autorité dans ma vie ? Mais c'est à moi de lui dire, Seigneur, tu vois, tu m'as donné la bénédiction, mais je veux qu'elle s'accomplisse pour moi. L'Église est un lieu de bénédiction. L'Église est aussi une position de choix. C'est ce que nous dit le verset 4. En lui, Dieu nous a élus, ou Dieu nous a choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous avez déjà entendu ce verset ? Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Alors, c'est un verset qui a amené, qui beaucoup l'encre a coulé à cause de ce verset pour le commenter. Il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations qui faisaient croire que peut-être Dieu avait choisi une élite avant de créer le monde. Il a dit, bon, telle personne, il a une bonne tête, je vais le sauver. Et puis celui-là, bon, sa tête me revient moins, je le sauverai pas. Donc, il en choisit certains pour les sauver et d'autres non. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Quand il est dit que Dieu nous a choisis, c'est pas que Dieu fait de la discrimination. Aujourd'hui, on aime bien ce mot, hein, vous avez remarqué. Et quand on me dit qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, ah, c'est la discrimination. Ben, il faut savoir, soit on est dans un pays de liberté où on peut quand même un peu s'exprimer, ou soit on n'est pas, on est dans un pays totalitaire. Mais Dieu ne fait pas de discrimination avec personne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut comprendre, Dieu nous a choisis. Il faudrait le traduire et ça serait exactement pareil. Dieu a choisi l'Église. Dieu a choisi le rassemblement des croyants pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est dans le contexte de l'Église que nous vivons cette réalité-là. Est-ce que vous comprenez la nuance? On pourrait comprendre de manière personnalisée, Dieu a choisi certains et pas les autres. Non, non, Dieu a choisi l'Église qui soit un moyen pour que les hommes et les femmes puissent vivre dans la sainteté et dans l'irréprochabilité, si ça existe. Vous avez compris la pensée en tout cas. C'est une position de choix parce que c'est merveilleux d'être dans la communion fraternelle. J'ai vécu des moments en particulier. Mais avant ça, je voudrais vous demander si vous voulez bien faire un test. Peut-être que vous ne voudrez pas et je comprendrai. Est-ce que quelqu'un qui a un portefeuille bien fourni voudrait le laisser traîner dehors et voir combien de temps il va rester? Qui serait volontaire? Personne. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une certaine méfiance de l'honnêteté des gens, on est d'accord? J'ai vécu, et c'est des choses qui m'ont marqué, quand j'étais plus jeune, dans des camps où il y avait des milliers de jeunes qui étaient réunis, j'ai vécu des fois où il y avait un ami qui avait oublié son portefeuille, qui avait quelques argent dedans. Bon, c'était un étudiant, donc il n'y avait pas des sommes extraordinaires, hein. Mais il y avait, pour lui, c'était important. Et il a oublié son portefeuille à la chaise dans la salle de réunion où il était. Mais c'était un rassemblement de jeunes croyants. Et les jeunes qui étaient là, il y en a sûrement qui n'étaient pas convertis, mais c'était une atmosphère spirituelle incroyable. Et il ne savait plus où il avait mis, il le cherchait partout, et puis à un moment donné, il s'est dit, je vais retourner à ma chaise où j'étais ce matin. Ça faisait des heures et des heures qui étaient passées, des centaines de gens étaient passés à côté, mais le portefeuille, il n'a pas bougé une seconde. Parce que c'était une ambiance spirituelle. Et c'est ça l'Église, la sainteté du comportement. Je vois un portefeuille qui traîne, j'ai pas envie de me sauter dessus pour prendre l'argent, mais si je peux aider à le retrouver, je vais le faire parce qu'il y a le désir de bien se conduire. Et c'est merveilleux d'être dans cette sérénité. Alors qu'il y a des milliers de personnes autour de nous, on est dans une sérénité. Parfois, il suffit de deux personnes qui sont un peu louches, excusez-moi l'expression, pour pas être tranquille. On est d'accord? Des fois, en marchant dans la rue, il fait nuit, on voit deux personnes qui semblent louches dans la pénombre, et on a peur pour notre vie. Mais quand on est dans l'Église, c'est pas cette pensée-là. Parce que c'est un lieu où Dieu veut qu'il y ait la sainteté qui règne. Un lieu où Dieu veut qu'il y ait des gens irréprochables. Est-ce que vous êtes irréprochables? En Christ. En Christ, oui. Mais irréprochable, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire parfait? Non. Ça veut dire, s'il y a une occasion de reproche, devant Dieu, je me repens et en Christ, je suis pardonné et Dieu me voit parfait. Dieu me voit sans reproche. Toutes les fois où je vais tomber, je vais me relever et je vais continuer d'aller de l'avant. Et c'est ainsi que Dieu me voit sans reproche, par sa grâce. Mais encore faut-il que je me relève et que j'aille de l'avant. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre. L'Église, c'est cette position de choix. Je fais le choix d'être dans l'Église afin de vivre la bénédiction. Quelqu'un a dit, parce qu'il est question d'une élection, Dieu nous a élus. Pour être élu, il suffit d'être candidat. C'est facile, hein? Pas besoin de vote, pas besoin d'assentiment de milliers de gens. Non, je veux être élu dans l'Église. Mais il suffit que je me présente candidat. Seigneur, je veux être faire partie de ton église. Je ne le mérite pas, mais toi, tu veux m'accueillir les bras ouverts. Que son nom soit béni. L'église, au verset 5, il nous est dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La volonté de Dieu, et ce qui fait le plaisir de Dieu, c'est que nous soyons ses enfants d'adoption. L'église, c'est une famille. Voilà la pensée qui est là dans ce verset. L'église, c'est une famille. L'église, c'est une communion fraternelle. C'est des frères et des sœurs. On n'est pas du même sang, mais on est réunis sous un même sang par le sang de Christ qui a coulé pour chacun de nous et qui est répandu sur nos cœurs pour laver, purifier nos cœurs. Nous sommes une famille. Ça ne veut pas dire, je le dis à chaque fois et je le répète, on ne renie pas notre famille de chair et de sang. Au contraire. Parce qu'on a compris ce que c'est le vrai amour, on a envie de les aimer encore plus. Mais Dieu nous donne une famille spirituelle. Je ne sais pas si vous avez vu cette légende qui circule sur Internet pour décrire le mot Ubuntu. Ubuntu, c'est un mot qui a été une philosophie de bienveillance, quelque chose d'humaniste, qui a été utilisé par Nelson Mandela au moment où, vous savez, il a pris le pouvoir et il fallait qu'il juge ceux qui ont fait l'apartheid. Donc c'était pas évident. Il y avait la possibilité de se venger de tout le mal qui a été fait, ou il y avait la possibilité de pardonner. Et c'est cette voie-là qu'ils ont choisie. Et ça a été décrit un petit peu avec le mot Ubuntu. Et il y a cette légende africaine qui explique un petit peu ce mot. C'est un anthropologue qui organise un jeu auprès d'enfants d'une tribu africaine. Et donc il leur met un panier de fruits un peu plus loin là. Et puis, il dit, voilà, les enfants, le premier qui est arrivé, on fait une course, le premier qui est arrivé, il va gagner la corbeille de fruits et il pourra la manger. Alors, dans le contexte africain et certains petits villages, c'est un gros trésor. Hein. Et alors, au signal donné, tous les enfants commencent à courir, mais ce qui a étonné l'anthropologue, c'est qu'ils se sont tous donné la main. Ce qui fait qu'ils ont tous franchi la ligne ensemble, main dans la main, et ils se sont mis tout autour pour manger les fruits ensemble. Et puis, quand l'anthropologue il a essayé de demander pourquoi ils agissaient comme ça, ils ont répondu « Ubuntu ». Alors, comment est-ce que l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes? C'est intéressant, ça, comme principe. Ubuntu, dans leur culture, ça signifie quelque chose comme « je suis parce que nous sommes ». Et je voudrais dire que dans notre culture croyante, Ubuntu, en fait, c'est la même chose que Église. Je suis en Christ parce que nous sommes en Christ et nous sommes un parce que Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que Dieu peut me sauver à moi s'il ne sauve pas les autres? Et comment est-ce que je peux avoir moi un lien avec le Seigneur si je n'ai pas de lien avec les frères et sœurs? Ce n'est pas possible. Le vrai mot qui traduit Ubuntu, c'est Église. Et c'est ça que le Seigneur voudrait que nous vivions. Avec force, comment est-ce que je peux me réjouir alors que mon frère est en train de pleurer à côté de moi parce qu'il traverse l'épreuve? Est-ce que c'est pas ce que dit la Bible? Quand l'un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand l'un des membres se réjouit, c'est tout le corps qui se réjouit. Ce n'est pas possible d'être indifférent, mais si je suis dans l'Église, si je suis dans la famille de l'Église, mais je sais que je suis sous la grâce de Dieu. Qui dit adoption? Parce qu'il est dit que nous avons été adoptés, nous sommes les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Qui dit adoption dit héritage. Quand une nounou garde un enfant chez elle, l'enfant ne va pas hériter de ses biens normalement, à moins qu'elle fasse sur le testament quelque chose. D'accord, c'est la loi française qui est comme ça. Hein, c'est pas qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Mais si on veut que l'enfant il fasse partie de la famille et qu'il soit dans l'héritage, il faut qu'il y ait l'adoption. D'accord? Dieu veut pas juste qu'on soit dans la famille pour bénéficier du contexte, le lieu de bénédiction, la position de choix, tout ça c'est bien. Non, il veut qu'en plus on soit ses enfants. Il veut qu'il y ait une relation de cœur à cœur avec lui et une relation de frères et sœurs avec ceux qui sont autour de nous. Dieu désire que nous vivions l'héritage. Au verset 11, on l'a pas lu, mais il est dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ». Donc c'est clair quand même. Et au verset 13, « En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Un gage, on pourrait dire un avant-goût, Le Saint-Esprit, est-ce que c'est la présence du Saint-Esprit en vous, c'est bien? Oui, c'est pas mal. C'est ça? Non, c'est incroyable la grâce que Dieu nous fait. Dieu habite en nous par son esprit. Je veux dire, quand on a la foi, c'est ce qui se passe. Ceux qui sont au dehors, c'est ceux qui n'ont pas, justement. Oh, je ne fais pas de discrimination, hein, mais c'est ce que dit la Bible. Quand je crois, quand je mets ma foi, quand je demande pardon au Seigneur, et qu'il me pardonne, il vient habiter dans mon cœur par son esprit. Et c'est seulement un avant-goût, un petit avant-goût de son héritage. Parce qu'il y a des grâces et des bénédictions. Dans le ciel, sûrement que ça sera beaucoup plus incroyable que ce qu'on y pense, mais il y a aussi tous les dons du Saint-Esprit qu'il veut manifester dans notre vie. C'est tellement merveilleux quand on parle avec une personne et que le Saint-Esprit nous montre quelque chose de précis. On le dit et son cœur est touché. Ça vous est déjà arrivé? Des fois, vous le dites sans le savoir. Hein, et souvent, moi, ça m'arrive, je ne sais même pas. Je ne connais pas la situation, mais il y a une parole qui touche. Et par la suite, je sais en fait que ce que j'ai dit, ça correspondait exactement à ce qu'elle avait besoin. Mais qui le sait? Ben Dieu par son esprit et qui nous le révèle. C'est ça l'héritage. Est-ce que je veux me contenter du salut? Le salut, c'est déjà merveilleux. Mais Dieu a un héritage fabuleux auquel il veut me faire goûter sur la terre parce que je fais partie de sa famille. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est aussi une zone de liberté. Regardez ce verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Qu'est-ce que c'est la rédemption? J'aime bien poser la question parce que des fois on utilise des termes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de manière plus simple? Rédemption. Rachat. C'est exactement ça, d'être racheté. Ça sous-entend qu'on était esclave. Quand on parle de rédemption, ça veut dire qu'on était esclave avant. On était sous un mauvais maître. Et quelqu'un est venu nous racheter, payer le prix, payer la dette qui était sur nous. Et maintenant, on est affranchi. On est libre. Mais on est libre tout en sachant qu'on a un devoir de redevabilité envers celui qui a payé pour nous. Et ça, on l'oublie souvent. Souvent, on dit « Ah, je suis libre, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire !» Vendredi, on voyait ce verset dans les Galates, je crois, qui parle de la liberté en Christ. La liberté, c'est pas de faire ce que notre chair désire. La vraie liberté, c'est de se soumettre, d'être serviteurs les uns aux autres avec amour. Vous avez déjà réfléchi à ça? Quoi? On me demande d'être libre et il faut que je me mette au service des gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est ça le chemin de la vraie liberté en Jésus-Christ. Est-ce que Christ était libre? Est-ce que le Fils de Dieu qui a créé l'univers juste avec sa parole et qui s'est incarné sur la terre, est-ce qu'il était libre sur la terre? Il était totalement libre. Mais regardez comment est-ce qu'il a vécu. Un serviteur. Et il a été même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour montrer l'amour. Serviteur par amour. Ça, c'est la liberté. Aujourd'hui, on croit que la liberté, c'est de faire que ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage de la terre. C'est l'esclavage du monde. La vraie liberté, c'est de se mettre au service des frères et sœurs. Et de notre prochain même, qui est celui qui est autour de nous et qui a besoin de ressentir l'amour. Vous croyez pas que si notre église dégorgée et surabondée d'amour, il y aurait des gens de l'extérieur qui viendraient... C'est déjà le cas, hein, mais il y en aura plus encore. Est-ce que vous le pensez comme moi ou pas? Ben oui, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Ils cherchent pas les beaux discours, ils cherchent pas les grandes citations, on laisse ça pour les présidents ou les hommes politiques. Ils cherchent des personnes qui aiment authentiquement, à la manière de Dieu, et à la manière dont Dieu nous a aimés à nous. L'Église, c'est une zone de liberté. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent esclave? Alors souvent, quand on dit ça comme ça, non, je ne suis esclave de personne. Souvent, ça, c'est la réaction première qu'on dit. Alors, est-ce qu'il y a des choses, des moments où vous dites, ça, je peux pas m'en passer? Et des fois, on dit, non, mais c'est bon, moi, je fais ça, mais je peux m'en passer, je peux arrêter. Des fois, j'ai entendu des gens qui fumaient, qui disaient, je peux arrêter quand je veux. Et puis, quand on voit, ben, ça traîne et ça traîne pendant des années et des années. Donc, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que je suis esclave ou pas ? Il y avait une maman et son ado qui venaient de voir un reportage sur le sujet très sérieux de la fin de vie. Et donc, l'ado, il regarde sa maman, presque les yeux larmoyants, solennellement, il regarde sa maman et dit, « Maman, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, dépendant d'une machine, comme on vient de voir. Si tu vois que ça m'arrive, si tu vois que je suis dans cet état, surtout tu débranches tout ce qui me maintient en vie. » Alors la maman, elle se lève et elle commence à débrancher la télévision, la box, elle lui enlève le portable des mains, l'iPad, elle met tout ça dans un tiroir. Et l'ado, il comprend pas ce qui se passe, il est horrifié, « Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais mourir !» Et la maman a dit, mais je viens de faire ce que tu me demandes, tout simplement. Les dépendances. Oh, on est prêt à avoir des dépendances là où il y en a, où elles sont, c'est vrai, mais on ne voit pas souvent celles où nous sommes nous. L'église, c'est le lieu de la rédemption, c'est le lieu du rachat. On sort de l'esclavage et on est amené dans la zone de liberté. Et pour pouvoir rester dans la zone de liberté, eh bien, il faut se mettre au service de notre Seigneur. Il faut se mettre au service de l'église. Il faut se mettre au service des frères et des sœurs qui sont autour de nous. Il est question de la rédemption et il est question de la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, la rémission des péchés ? Ben, c'est tout simplement le pardon. La séparation du péché. En fait, le mot, c'est le même mot qui est employé pour divorce. Le divorce d'avec le péché. Donc, vous voyez, c'est fort. Avant, j'étais pécheur, mais Dieu me fait divorcer du péché. Et il me permet de vivre dans un endroit où il y a la sainteté, où il y a la grâce. Dieu sait que le péché, c'est ce qui rend esclave. Au fond, derrière toutes les dépendances, vous verrez qu'il y a le péché qui se cache. Et il le rend esclave. Mais voilà pourquoi est-ce que Dieu a donné la croix et son pardon à la croix, pour la rémission du péché. Et quand l'homme est pardonné, il le place dans la zone de liberté. Imaginez que vous étiez dans l'Allemagne de l'Est et que vous aviez devant vous le mur, avec tous les contrôles qui vous empêchaient de traverser dans l'Allemagne de l'Ouest. Mais c'est cette pensée-là. Vous risquez la mort, il y a les camps de concentration, il y a toutes sortes de choses horribles qui se passent derrière vous, et devant vous, il y a la liberté. Mais Dieu a fait en sorte que vous franchissiez le mur. Dieu a fait en sorte que le mur explose en Jésus-Christ. Mais c'est seulement en Jésus-Christ qu'il explose. Et c'est la liberté qui se trouve de l'autre côté du mur. Des fois, on voudrait aller de l'un à l'autre, prendre ce qui nous intéresse dans un coin, et puis dans l'autre. Mais si on veut être vraiment libre, il faut rester en Jésus-Christ. L'Église, c'est cette zone de liberté où Dieu veut que je reste et je demeure pour sa gloire. Je termine avec cette pensée. Tout à l'heure, on a chanté « Pas besoin de diplôme ». Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez un diplôme, un master en louange spirituelle du troisième degré ? Bon, heureusement, on n'a pas besoin de tout ça pour louer le Seigneur. Par contre, est-ce que vous voulez ce matin être diplômé d'une grande école ? C'est prestigieux ça, hein ? Diplômé d'une grande école HEC ou normale, sup, tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas ces écoles-là dont je parle, mais l'Église, c'est une grande école. Regardez la définition du ministère de l'Éducation nationale. Une grande école, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des formations de haut niveau. Est-ce que l'Église, il y a un enseignement supérieur ? Ah ben, je peux vous dire que oui. Hein. Le professeur, c'est le top du top au niveau connaissance, sagesse, intelligence. C'est d'ailleurs le verset 8 qui nous dit « Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. » Quel professeur sur terre a plus d'intelligence que Dieu et le mystère de la volonté de Dieu ? Ben, s'il y en a un, vous me le faites savoir. Vous m'envoyez son adresse, je voudrais discuter avec lui. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. Le meilleur des professeurs, c'est le Seigneur Jésus. Là, c'est pas une grande école, c'est pas une école où on s'assoit, où on est derrière un pupitre, et où on nous envoie au tableau, et si on n'est pas gentil, on a un coup de règle sur les doigts, ça ne fait plus aujourd'hui. Mais c'est pas ça, hein. C'est l'école de la vie. L'école où on se tient à la disposition du Seigneur comme un disciple, près de son maître, à l'écoute. Et on reçoit l'instruction. Jésus a dit, recevez mes instructions. Prenez mon fardeau sur vous, car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Et il a dit « Je suis doux et humble de cœur. » C'est bien un professeur comme ça, non ? Un prof doux et humble de cœur. Recevez mes instructions, ça veut dire mettez-vous à mon école. Est-ce qu'il y a un concours pour entrer ? On a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est un concours très spécial. On n'est pas jugé sur nos facultés intellectuelles ou sur la façon dont on peut retransmettre notre pensée, notre raisonnement avec synthèse. On est jugé sur la capacité à reconnaître nos failles. Vous voulez rentrer dans la grande école du ciel ? Ben, repentez-vous. Reconnaissez votre péché. Demandez pardon. Dites « Seigneur, je veux te suivre, je veux me convertir à toi, je veux marcher dans tes voies. » Et vous êtes admis. C'est facile, non ? Combien c'est facile ? Et puis la formation de haut niveau, c'est toutes ces espèces de sagesse et d'intelligence qui viennent de Dieu. Le mystère de sa volonté qu'il nous fait connaître. Dieu désire que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Mais Dieu désire que sa volonté se fasse sur la terre comment ? Par l'Église. Par vous. Par moi. Par chacun de nous, et par nous, main dans la main. Est-ce que vous priez parfois le Notre Père ? Mais c'est exactement ce qui est dit, hein, que ta volonté soit faite. Mais on oublie qu'en substance, il est dit, Seigneur, c'est moi, comment est-ce que je vais faire ta volonté sur la terre ? Souvent, on pense que c'est lointain, Seigneur, fais ta volonté, vas-y, attends, je suis pas contre, vas-y, fais-le. Mais on oublie que Dieu, il veut faire sa volonté avec nous. Et c'est ça l'Église, cette grande école où on se tient devant le Maître et on vit la grâce de Dieu. Je me souviens de ce témoignage que j'ai entendu cet été, qui montre que l'Église est ce lieu de bénédiction. Je voudrais terminer avec ça. C'était un couple qui devait avoir un enfant, donc la dame était enceinte de quelques mois, je crois. Et puis... Attendez, je vais me le remettre sous les yeux pour pas écorcher quelque chose. Alors, attendez. Hein. Voilà. Ils ont déclaré, les docteurs, que le liquide amniotique, il était infecté à un moment donné. Vous savez, on fait des prises de sang et toutes sortes de contrôles, et à un moment donné, il y a eu l'infection du liquide amniotique. Donc, c'est pas bon. Les docteurs ont dit, soit vous avortez, soit vous mourrez tous les deux. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Ben, vous savez ce qu'ils ont fait, ces personnes ? Ils ont prié et ils ont demandé la prière de l'Église. L'Église, c'est un lieu de bénédiction. Et alors que les docteurs avaient une vision de mort, parce qu'ils sont limités dans leurs pensées, même s'ils rendent service très souvent, il y a des fois où les conseils ne sont pas appropriés. Dans la prière, ils ont eu une confirmation que Dieu allait faire quelque chose. Et quelques temps après, alors que l'Église a prié, alors que la famille a prié, ils ont refait des analyses et la dame était totalement guérie. Totalement guérie. La preuve en est que cet été, mes beaux-parents sont là, ils ont accueilli chez eux le jeune homme en question et les parents ont choisi de l'appeler Samuel. Parce que Samuel, vous savez ce que ça veut dire ? Dieu a exaucé. Et donc cet été, Samuel, d'ailleurs, il est devenu même pasteur. Je ne sais plus c'est quelle ville, à Blois. Depuis septembre, il est pasteur à Blois. Dieu a entendu la prière de l'Église, la prière d'une famille qui est montée vers lui. La bénédiction est tombée sur cette famille et ce jeune bébé qui était là, qui a grandi, est devenu un serviteur de Dieu. C'est pas merveilleux ? C'est pas merveilleux de vivre des bénédictions dans l'Église ? C'est pas merveilleux d'ensemble de faire monter des prières et de voir qu'on a un Dieu qui exauce et un Dieu qui bénit et un Dieu qui n'est pas indifférent à nos souffrances, mais qui a mis à côté de nous des hommes et des femmes, pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse avancer, et on puisse se fortifier, on puisse s'encourager. Deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, ben l'autre le relève. C'est pas des nouveautés, c'est la Bible qui le dit depuis des siècles et des siècles, et combien nous avons tout intérêt à nous mettre à l'écoute de son enseignement. On va fermer les yeux quelques instants. Devant cette magnifique description de l'apôtre Paul aux Éphésiens, de l'Église, posons-nous la question, Seigneur, est-ce que C'est la vision que j'ai de l'Église. Si ce n'est pas le cas, ben Seigneur, renouvelle mes pensées. Accorde-moi l'intelligence. Donne-moi ton regard. Augmente ma foi pour que je voie l'Église comme toi tu la vois, Seigneur. Cette zone de liberté. Accorde-moi d'être vraiment libre, pas d'être enchaîné par mes passions et mes désirs. Accorde-moi, Seigneur, de vivre au service de toi et de tes enfants, Seigneur, avec amour. Tu connais, Seigneur, ce matin celui qui est affligé. Tu connais, Seigneur, celui qui est découragé, qui aurait tendance justement à suivre ce que l'ennemi voudrait lui faire faire, c'est-à-dire s'isoler, s'éloigner. Mais Seigneur, que les yeux puissent s'ouvrir, que les écailles puissent tomber des yeux pour réaliser que c'est dans l'Église qu'il y a la bénédiction. Parce que c'est ta parole qui le dit. C'est, Seigneur, là où tu veux répandre ta grâce. Tu vois celui qui est accablé, celui qui est sous un lourd fardeau et qui ne partage pas son fardeau, Seigneur. Montre-lui l'importance de réaliser que c'est dans le partage, quand on se supporte les uns les autres, que tu agis avec puissance. Tu vois celui qui vit une situation difficile, peut-être même une maladie, tu nous montres encore ce matin que tu es un Dieu de vie, un Dieu qui entend la prière, le Dieu qui exauce la prière, Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous voulons servir. C'est ce Dieu-là que nous voulons honorer. Nous ne voulons pas avoir une foi inutile, mais nous voulons avoir une foi dans le Dieu vivant et vrai, celui qui est puissant, celui qui est assis sur le trône, celui qui a toute autorité par rapport à n'importe quelle situation. Oui, Seigneur éternel, tu as mis toutes choses sous les pieds du Christ. Et Seigneur, tu en as fait la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Et nous, Seigneur, nous sommes la plénitude de Christ. Tu veux remplir chacun d'entre nous de ton esprit. Fais-le encore ce matin, Seigneur, et glorifie ton nom au travers de nos vies. Amen.